Chapitre 31. Première journée de voyage interplanétaire. La reine Mab, le vaisseau atomique de fabrication Moravec, extrait ses 300 et quelques mètres du puits gravifique martien au moyen d'une série d'explosions éblouissantes qui le propulsent comme un coup de pied dans le derrière. La vitesse de libération sur Phobos est d'à peine 10 cm par seconde, mais la reine Mab s'empresse de parvenir à une célérité de 20 km par seconde afin de se libérer de l'attraction martienne. Le spationef pourrait conserver cette allure durant le reste du voyage, mais il n'en a pas la patience. La reine Mab a l'intention d'accélérer jusqu'à ce que ses 38 000 tonnes se déplacent à 700 km par seconde. Dans la salle de stockage des unités de pulsation, chaînes, cliquets et toboggans bien huilés convoient les boîtes de coca nucléaire d'une puissance de 45 kilotonnes le long du conduit d'éjection qui traverse le plateau de poussée aménagé à la poupe du vaisseau. Durant la phase initiale du voyage, on éjecte toutes les 30 secondes une bombe qui explose après avoir parcouru 600 mètres. Après chaque éjection, l'embouchure du tube est aspergée de graisse, la même qui arrose le plateau de poussée à l'issue de chaque détonation. Le plateau en question est propulsé vers l'avant du vaisseau sur des amortisseurs de 33 mètres de long, puis les titanesques pistons le remettent en place pour l'explosion suivante. La reine Mab se dirige bientôt vers la Terre sous une confortable poussée de 1,28G et sa vitesse augmente régulièrement. Les Moravec sont bien entendu capables de supporter des centaines de G, voire des milliers pendant une brève période, mais ils ont un passager humain à bord, Odysseus, voyageur malgré lui, et ils ont décidé à l'unanimité de ne pas le transformer en gelée couleur fraise. Dans la salle des machines, Orfu Dio et ses collègues techniciens surveillent les niveaux d'huile et de pression, sans perdre de vue le voltage ni les liquides de refroidissement. Comme une bombe atomique explose derrière lui toutes les 30 secondes, le spationef a besoin d'une bonne quantité de lubrifiant, si bien que les 10 ponts inférieurs sont occupés par des citernes d'huile aussi grosses que des tankers de l'air perdu. La salle des machines proprement dite, avec ses myriades de conduits, de valves, de vue-mètres, de pistons et de jauges, persiste à vouloir ressembler à celle d'un vapeur du début du XXe siècle. Le commandant de la reine Mab prévoit de maintenir son accélération actuelle pendant un long moment, puis de décélérer sur un laps de temps très bref, un plan de vol qui lui permettra d'atteindre le système Terre-Lune en un peu plus de 33 jours standard. Manmut consacre ce premier jour à vérifier les systèmes de son submersible, la Dame Noire. Non seulement celui-ci est confortablement niché dans une soute de la reine Mab, mais il est en outre fixé à une navette aérospatiale qui lui permettra d'effectuer son entrée dans l'atmosphère le moment venu. Et Manmut vérifie que les nouveaux contrôles et interfaces dédiées sont tous en ordre de marche. Quoique séparés par une douzaine de ponts, Manmut et Orfu bavardent sur un canal privé tout en observant la fuite apparente de Mars sur des écrans vidéo et radars. Les caméras de poupe qui retransmettent ces images à Manmut sont équipées de filtres informatisés des plus sophistiqués qui élimine les éclairs quasi continus des unités de pulsation, c'est-à-dire des bombes. Quant à Orfu, aveugle pour ce qui est du spectre visible, il observe le mouvement de Mars grâce à des données radar.
« Ça me fait bizarre de quitter Mars après tous les efforts que nous avons dépensés pour y parvenir »,
émet Manmut. « En effet », lui répond Orfu Dio, « surtout maintenant que les dieux de l'Olympe s'affrontent à bras raccourcis. » Pour illustrer son propos, le grand Moravec accède aux images vidéo captées par Manmut, se focalisant sur les pentes glacées et le sommet verdoyant d'Olympus Mons. Orfu perçoit l'activité divine sous la forme d'une série de données infrarouges, mais Manmut la savoure de visu. Ça et là fleurissent de violentes explosions, et la caldeira, qui était encore un lac 24 heures auparavant, flamboie d'un éclat rouge et jaune, ce qui prouve que la lave y a refait son apparition.
Astikche, rétrograde Sinopesen, Choli, le général Bebinadi et les autres intégrateurs semblent bel et bien effrayés,
dit Manmut sans cesser d'égrener la checklist des systèmes de son sous-marin.
Et quand ils ont dit à Hockenberry que la gravité martienne avait été artificiellement augmentée, je dois dire que ça m'a fait un peu peur.
C'est la première fois qu'Orfu et lui ont l'occasion de s'entretenir en privé depuis le départ de la reine Mab. Et Manmut est soulagé de pouvoir se confier ainsi.
Ce n'est que la partie émergée de tout un iceberg de merde,
émet Orfu.
Que veux-tu dire?
Manmut sent un soudain frisson parcourir ses éléments organiques.
« C'est vrai !» gronde Orfu. « Tu étais si occupé à faire la navette entre Mars et Ilium que tu n'as pas entendu parler du rapport de la commission d'enquête des intégrateurs. »«
Raconte !»«
Cela va te faire de la peine, mon ami. »«
Tais-toi et raconte !»« Enfin, tu vois ce que je veux dire. Parle !»
Orfu soupire. Sur le faisceau cohérent, l'effet obtenu rappelle le bruit d'une dépressurisation soudaine sur l'ensemble du spationef.
D'abord, il y a cette histoire de terraformation.
Oui,
fait Manmut. Durant leur périple martien de plusieurs semaines, en sous-marin, en felouk et en ballon, Manmut a fini par s'habituer au ciel bleu, à la mer verte, aux lichens, aux arbres et à l'atmosphère.
Il y a 125 ans à peine, on ne trouvait aucune trace de cette air, de cette eau et de cette vie, dit Orfu.
Je sais. Astikche l'a expliqué lors du premier briefing sur Europe, il y a presque une année standard. Il paraissait impossible que la planète ait été terraformée aussi rapidement. Et alors?
Alors, c'était effectivement impossible. Pendant que tu te frottais aux Grecs et aux Troyens, nos équipes scientifiques des cinq lunes et de la ceinture réunies ont étudié la terraformation de Mars. Celle-ci ne s'est pas faite par magie, tu sais. On a utilisé des astéroïdes pour faire fondre les calottes polaires et libérer le CO2. D'autres astéroïdes ont frappé les gigantesques réservoirs de glace souterrains afin que l'H2O remonte à la surface après tous ces millions d'années. On a semé du lichen, des algues et des lombriques pour ouvrir la voie aux végétaux. Et tout ça n'a pu se produire qu'après que la densité de l'atmosphère eût été décuplée grâce à des usines fabriquant de l'azote et de l'oxygène à partir de réacteurs à fusion.
Dans la crèche de contrôle de son submersible, Manmut cesse un instant de tapoter son écran d'ordinateur. Il débranche les ports virtuels, faisant disparaître les schémas du sous-marin et de la navette qui flotte devant lui.
Ça voudrait dire que...
Ouais. Ça veut dire qu'il a fallu un peu moins de 8000 ans pour amener Mars au stade qui est aujourd'hui le sien.
Manmut se rend compte qu'il émet des bredouillis sur le faisceau cohérent, mais il ne peut s'en empêcher. Astikche leur a montré des photos astronomiques de la vieille Mars, ce monde glacé, sans air et sans vie, prise depuis l'espace jovien ou saturnien un siècle et demi plus tôt, et les Moraveks n'ont commencé à essaimer le système extérieur que depuis 3000 ans. Mars n'était évidemment pas terraformé à cette époque, exception faite de quelques cités sous dôme chinois sur Phobos et à la surface de la planète. Cette dernière était restée telle que les premières sondes terriennes l'avaient photographiée au XXe et XXIe siècle.
« Mais... »
répète Manmut.
« J'adore quand tu restes sans voix. »
Aimé Orfu sans toutefois souligner cette saillie d'un grondement qui aurait traduit son amusement.
« Ce que tu sous-entends, c'est qu'il est bien question de magie. Ou alors de vrai dieu. Ou bien d'un dieu tout court. Ou alors... »
La colère de Manmut est nettement perceptible.
Ou alors?
Qu'il ne s'agit pas de la vraie Mars?
Exactement,
réplique Orfu.
Ou disons plutôt qu'il s'agit de la vraie Mars, mais pas de notre vraie Mars. Cette Mars n'est pas celle qui se trouvait dans notre système solaire depuis des milliards d'années.
Quelqu'un? Quelque chose a troqué notre Mars contre une autre?
Apparemment, oui. Les intégrateurs primes et leurs scientifiques ne voulaient pas y croire non plus. Mais c'est la seule hypothèse qui colle à tous les faits. Le rapport jour-sol a été décisif.
Manmut s'aperçoit que ses mains tremblent. Il les joint, coupe les canaux vision et vidéo pour mieux se concentrer, et émet...
Le rapport jour-sol?
Un petit détail, mais qui a son importance. Toi qui es souvent passé de Mars à la Terre d'Ilium en empruntant le trou de Bran, n'as-tu pas remarqué que les jours avaient la même longueur des deux côtés?
Si, mais...
Manmut se tait. Il n'a pas besoin d'accéder à ses banques de mémoire nono pour savoir que la Terre tourne sur elle-même en 23 heures et 56 minutes et Mars en 24 heures et 37 minutes. Une différence minime, mais qui aurait fini par devenir sensible au bout de plusieurs mois passés entre Mars et la Terre, où les Grecs affrontaient naguère les Troyens. Sauf qu'il n'a rien vu. Les jours et les nuits des deux mondes étaient parfaitement synchrones.
« Doux Jésus,
murmure Manmut sur le faisceau cohérent.
Doux Jésus.
Peut-être,
fait Orfu, et cette fois-ci on perçoit son grondement amusé.
Ou du moins une entité douée de pouvoir divin comparable au sien.
Quelqu'un ou quelque chose venu de la Terre a ouvert des trous dans l'espace multidimensionnel de Calabillo, a jeté des brânes pour connecter son univers au nôtre, a troqué notre Mars contre la sienne, qui qu'il soit, et il a connecté l'autre Mars, cette Mars terraformée avec des dieux au sommet d'Olympos, il l'a connecté avec la Terre d'Ilium au moyen d'autres trous de brânes. Et pour faire bonne mesure, ce quelqu'un ou quelque chose a altéré la gravité et la période de rotation de Mars. Jésus, Marie-Joseph et Sainte Foutaise.
Oui,
commente sobrement Orfu.
Et les intégrateurs primes sont d'avis que l'entité dont tu parles se trouve désormais sur Terre ou en orbite terrestre. Tu es toujours décidé à faire le voyage?
Manmut
ne peut poursuivre. Aurait-il accepté de s'embarquer s'il avait été au courant? Après tout, il savait déjà que la mission serait dangereuse, il le savait depuis qu'il s'était porté volontaire pour aller sur Mars à l'issue du briefing sur Europe. Quelle que soit cette entité ou ces entités, des post-humains évolués ou des créatures venues d'un autre univers, d'une autre dimension, elle s'était déjà montrée capable de contrôler et de manipuler jusqu'au tissu quantique de l'univers. Faire basculer une planète d'un univers à l'autre, en altérer le champ gravifique et la période de rotation, c'était un jeu d'enfant comparé à cela. Et lui, qui était tout fier de cette reine Mab fonçant vers la Terre et ses monstres à une vitesse de 180 km par seconde, à côté de la puissance de leur ennemi, dans cet univers et dans les autres, ce spationnef, avec ses armes ridicules et ses milliers de roquevêques endormis, était une sinistre plaisanterie.
« C'est plutôt dégrisant, »
émit-il finalement.
« Amen, »
répond son ami. À ce moment-là, un signal d'alarme retentit dans l'ensemble du vaisseau et toute une panoplie d'alertes visuelles et auditives sature les canaux de communication virtuelle et com.
« Intrusion ! Intrusion !»
beugle la voix du spationnef.
« C'est une blague ?»
demande Manmut.
« Non, »
répond Orfu.
« Ton ami Thomas Hockenberry vient de se matérialiser dans la salle des machines. Il a dû se téléporter. »«
Est-ce qu'il va bien ?»«
Non, il saigne abondamment. Il y a déjà une mare de sang sur le pont. J'ai l'impression qu'il est mort, Manmut. Je l'ai ramassé avec mes manipulateurs et je le transporte à l'infirmerie humaine aussi vite que le permettent mes répulseurs. »
Le spationnef est immense, la pesanteur qui y règne plus importante que celle à laquelle il est habitué. Aussi Manmut met-il plusieurs minutes pour émerger de son sous-marin, puis de la soute, afin de gagner les niveaux qu'il a baptisés « quartier humain ». Le pont 17, outre qu'il contient des chambres, des cuisines, des toilettes et des couchettes antigées susceptibles d'accueillir une population de 500 personnes, est également pourvu d'une infirmerie équipée de matériel médical et chirurgical modèle 22e siècle. Un peu ancien, certes, mais le dernier cri en la matière en ce qui concerne les archives des Cinq Lunes. Jusqu'ici, le pont 17 était occupé par le seul Odysseus, un passager embarqué de force et pas très content de son sort. Mais Manmut découvre une petite foule à son arrivée. Orfu est là, occupant toute la largeur du couloir, ainsi que le ganymédien Suma IV, le Calistan Tcholi, le général Roquevêque Beb Inadi et deux des pilotes de la passerelle. La porte de la salle d'opération est fermée, mais Manmut distingue derrière la vitre l'Amalthéen rétrograde Sinopesen qui s'affaire sur le corps sanglant d'Hockenberry, opérant sous la supervision d'Astikche. Ils sont assistés par deux petits techniciens Moravec armés de scie et de scalpels laser qui branchent les tuyaux, passent la gaz et calibrent l'équipement d'imagerie virtuelle. Le minuscule corps métallique et les élégants manipulateurs de rétrograde Sinopesen sont couverts de sang.
« Du sang humain ?»
se dit Manmut.
Le sang d'Hockenberry.
Il voit aussi quelques petites flaques de sang à ses pieds, quelques taches sur les murs, et d'autres sur la carapace vérolée et les gros manipulateurs de son ami Orfu Dio.
Dans quel état est-il ?
Demande-t-il à ce dernier. Il s'est exprimé à haute voix, car il est impoli chez les Moravec d'utiliser le faisceau cohérent en présence de tiers.
Il était mort à mon arrivée. Ils essaient de le ressusciter.
L'intégrateur Sinopesen est-il un spécialiste de l'anatomie et de la médecine humaine?
Il a toujours été passionné par la médecine de l'air perdu. C'était son hobby. Un peu comme les sonnets de Shakespeare pour toi et les romans de Proust pour moi.
Manmuth acquiesce. La plupart des Moraveks européens de sa connaissance se passionnaient pour l'humanité, ses arts et ses sciences antiques. On avait programmé ce genre d'intérêt dans les robots et cyborgs autonomes envoyés dans la ceinture d'astéroïdes et le système extérieur, et leurs descendants Moraveks conservaient ce trait.
Mais Sinopesen en sait-il assez pour ramener Hockenberry d'entre les morts?
Manmuth voit Odysseus émerger de la cabine où il se reposait. Le puissant guerrier se fige en découvrant la foule dans le corridor et sa main se porte automatiquement à son épée, ou plutôt à l'endroit où elle devrait se trouver vu que les Moraveks lui ont confisqué ses armes alors qu'il gisait inconscient à bord du frelon. Manmuth tente d'imaginer l'étrangeté que présente cette situation aux yeux du fils de Laërte. Embarqué à bord d'un navire de métal voguant sur l'océan de l'espace, en compagnie d'un assortiment de machines des plus bigarrées, il n'existe pas deux Moraveks identiques parmi ce groupe, où l'on trouve l'imposant Orfu, qui pèse 2 tonnes au bas-mot, le ganymédien Sumacâtre, tout de lisse noirceur, et le général Bébinadi, pareil à un insecte chitineux aux multiples barbelures. Sans paraître leur prêter attention, Odysseus s'approche de la baie d'observation pour contempler l'opération en cours, le visage dénué de toute expression. Manmuth se demande une nouvelle fois ce que peut bien penser ce guerrier barbu au torse puissant en découvrant une araignée d'argent et 2 insectes aux élytres noires penchés sur le corps d'Hockenberry, un homme qu'il a beaucoup fréquenté au cours des 9 derniers mois. L'humain et les Moraveks sont également fascinés par le thorax grand ouvert d'Hockenberry, qui gît les côtes écartées comme une carcasse sur l'étal du boucher.
Odysseus va-t-il croire que rétrograde Sinopesen est en train de dévorer son semblable?
Sans détourner les yeux du spectacle, Odysseus lui demande en grec ancien
« Pourquoi des amis ont-ils tué Hockenberry, fils de Duan ?»«
Ils ne l'ont pas tué. Hockenberry est apparu soudain à bord de notre navire. Tu te souviens, je pense qu'il a le pouvoir de voyager en un instant, à l'instar des dieux de l'Olympe. »
« Oui, fait Odysseus. Je l'ai vu transporter Achille à Ilium, disparaissant pour réapparaître aussitôt comme le font les dieux. Mais jamais je n'ai pensé qu'Hockenberry était un dieu, ni même le fils d'un dieu.
Non. Et d'ailleurs, il n'a jamais prétendu l'être, répond Manmuth. Il semble que quelqu'un l'ait poignardé, mais il a réussi à se técu, à se déplacer à la façon des dieux, pour venir ici implorer notre aide. Le Moravec argenté et ses 2 assistants s'efforcent en ce moment même de lui sauver la vie.
Odysseus braque sur Manmuth ses yeux grillaciers.
« Lui sauver la vie, petit homme machine? Je vois bien qu'il est mort. L'araignée lui a ôté son cœur. »
Manmuth se retourne. Le fils de Laërte dit vrai. Comme il ne souhaite pas déranger Sinopesen, c'est à Astygche qu'il s'adresse sur le canal général.
« Est-ce qu'il est mort? Irrémédiablement mort ?»
Le prime intégrateur lui répond sur le même canal sans détourner son attention de l'opération en cours.
« Non. » Les fonctions vitales d'Hockenberry ne se sont interrompues qu'un peu plus d'une minute avant que Sinopesen fige toute activité cérébrale. Il est d'avis que le patient n'a subi aucun dommage irréversible. L'intégrateur Sinopesen m'informe que la procédure normale serait d'injecter au patient plusieurs millions de nanocytes chargés de réparer son aorte et son muscle cardiaque, après quoi des machines moléculaires spécialisées renouvelleraient son sang et renforceraient son système immunitaire. Mais il a découvert que cette procédure ne pouvait pas être appliquée au scoliaste Hockenberry.
Pourquoi donc?
Demande Choli, l'intégrateur Calistan.
Les cellules du scoliaste Hockenberry sont signées.
Signées?
Répète Manmuth. Il ne s'est jamais intéressé à la biologie et à la génétique, humaine ou Moravec, quoiqu'il ait longuement étudié les Kraken, le Varek et autres créatures des océans d'Europe, l'environnement dans lequel il a évolué pendant un peu plus d'un siècle aux commandes de son sous-marin.
Signé, placé sous copyright et protégé contre la copie,
déclare Astygche sur le canal général. Odysseus et Hockenberry acceptés, tous sont suspendus à ses émissions.
Ce scoliaste n'est pas né, il a été construit, obtenu par rétro-ingénierie à partir d'échantillons d'ADN ou d'ARN. Son corps rejettera toute tentative de transplantation d'organes et, ce qui est bien plus important, il rejettera nos nanocytes, vu qu'il est déjà truffé de nanotechnologies très avancées.
De quel type ?
Demande Suma 4, le ganymédien gainé de buccicarbone.
Quelle est la fonction de ces nanos ?
Nous l'ignorons pour le moment.
C'est Sinopesen en personne qui vient de s'exprimer, alors même que les doigts filiformes de l'une de ses mains s'activent avec un scalpel laser, des sutures et des micro-ciseaux, sans que les autres lâchent le cœur d'Oakenberry. Il poursuit.
Ces nanomèmes et ces microsites sont bien plus sophistiqués, bien plus complexes que tout ce que nous connaissons, en théorie comme en pratique. Les cellules et les machines subcellulaires ignorent nos nanoroquettes et éliminent toute intrusion.
Mais vous pouvez quand même le sauver ?
S'enquiert Choli.
Je le pense, répond rétrograde Sinopesen. Après avoir régénéré le sang du scoliaste Oakenberry, je compléterai la réparation cellulaire et recoudrai les plaies, puis je laisserai reprendre l'activité neurale, lancerai le champ Grzvki pour stimuler le processus de guérison et il devrait s'en sortir.
Manmut se tourne vers Odysseus pour lui communiquer ce pronostic, mais l'Achéen a vidé les lieux. Deuxième journée de voyage interplanétaire. Odysseus arpente les corridors, monte les escaliers, évite les ascenseurs, fouille les pièces et ignore les Moravec, ces artifices dignes d'Héphaïstos. Il cherche la sortie de cette annexe métallique de l'Hadès.
« Oh Zeus !»
murmure-t-il dans une salle tout en longueur, où le silence n'est rompu que par le bourdonnement des boîtes, les soupirs des ventilateurs et le gargouillis des tuyaux.
« Père qui règne suprême sur les dieux comme sur les hommes. » Père à qui j'ai désobéi et que j'ai combattu dans ma folie. Toi dont le tonnerre a rugi dans les cieux étoilés toute ma vie durant. Toi qui as jadis dépêché Athénée, ta fille bien-aimée, pour me combler de son amour et de sa protection. Père, je t'implore de m'envoyer un signe. Délivre-moi de cet Hadès métallique, de ce royaume des ombres et de l'impuissance où j'ai échoué avant mon heure. Je te demande seulement une chance de mourir au combat, ô Zeus, ô Père qui règne sur la terre ferme comme sur la mer infinie. Accorde-moi ce vœu ultime, et je serai ton serviteur jusqu'à l'heure de mon dernier souffle.
Aucune réponse, même pas un écho. Odysseus, fils de Laërte, père de Télémaque, bien-aimé de Pénélope, favori d'Athénée, serre les poings et crispe les mâchoires sous l'effet de la rage, puis continue à arpenter les corridors de métal de cet enfer sous coque. Les artifices lui disent qu'il est à bord d'un navire métallique voguant sur la mer noire du cosmos, mais ils mentent. Ils lui disent qu'ils l'ont arraché au champ de bataille le jour où le trou s'est effondré, parce qu'ils souhaitaient l'aider à retrouver son domaine, son épouse et son fils. Mais ils mentent. Ils lui disent qu'ils sont des objets pensants, comme les hommes, avec une âme et un cœur, comme les hommes. Mais ils mentent. Ce gigantesque sépulcre de métal est comme un dédale vertical, et on n'y trouve aucune fenêtre. De temps à autre, Odysseus tombe sur une surface transparente donnant sur une autre salle, mais il ne trouve ni fenêtre ni hublot qui lui permettrait de contempler cette mer noire dont parlent les artifices. Rien que des bulles de verre derrière lesquelles s'étend le ciel nocturne, avec les constellations qui lui sont familières. Parfois, les étoiles se mettent à tournoyer, comme s'il avait bu un coup de trop. Lorsqu'il n'y a aucun Moravec dans les parages, il tape de toutes ses forces sur les bulles et les parois jusqu'à s'en faire saigner les poings, mais il ne laisse aucune trace sur le verre et le métal. Il ne casse rien. Il n'ouvre rien. Quelques salles lui sont accessibles, nombre d'autres lui sont interdites, et quelques-unes, notamment la passerelle qu'on lui a montrée durant le premier jour de son exil en cet Hadès aux angles coupants, sont gardées par ces artifices noirs et épineux qu'on appelle Rockvec. Guerrier-évêque ou encore soldat de la ceinture. Il a vu ces monstruosités se battre durant des mois, lorsqu'elles protégeaient Ilium et les campements achéens contre la fureur des dieux, et il sait qu'elles sont dénuées d'honneur. Ce ne sont que des machines qui affrontent d'autres machines en cédant d'autres machines encore. Mais elles sont plus lourdes et plus fortes que lui, protégées par leurs lames et leurs barbelures, alors qu'on lui a confisqué ses armes et son armure. Peut-être tentera-t-il de s'emparer d'une arme de Vec, mais uniquement après avoir épuisé toutes les autres solutions qui s'offrent à lui. Odysseus, fils de Laërte, s'exerce au maniement des armes depuis sa plus tendre enfance. Il sait que le guerrier doit bien connaître son arme, sa forme comme sa fonction, avant de l'utiliser au mieux de ses possibilités. un peu comme un artiste connaît les instruments de son art. Et il ignore tout des armes que portent ces Rokvek, qu'elles soient lourdes ou légères, pointues ou contondantes. Arrivé dans la salle où rugissent les machines et les gigantesques cylindres mouvants, il s'entretient avec le monstre ressemblant à un crabe géant. Odysseus a compris que cette créature était aveugle, mais elle se dirige à merveille sans le secours de ses yeux. Odysseus a connu mains braves privées de la vue, ainsi que des oracles ou des devins aveugles, mais doués du don de double vue.
« Je veux retourner sur les champs de bataille troyens, monstre » déclare-t-il. « Conduis-moi là-bas sans tarder !»
Le crabe gronde. Il s'exprime dans la langue d'Odysseus, qui est celle des hommes civilisés, mais de si abominable façon que ses paroles évoquent les vagues se fracassant sur les récifs, ou les pistons sifflant et plongeant au-dessus d'eux, plutôt qu'un discours issu d'une bouche humaine.
« Nous avons long voyage devant moi, nous, noble Odysseus, fils de Laërte. Quand ce voyage sera mort, fini, achevé, nous espérons t'enlever, te ramener à Pénélope et Télémaque.
Comment cette carcasse de métal animé ose-t-elle tourner sa langue invisible autour du nom de mon épouse et de celui de mon fils?
S'il avait une épée même émoussée ou un gourdin même mal dégrossi, il réduirait cette créature en pièces, fracasserait sa carapace pour lui arracher la langue. Abandonnant le monstrueux crustacé, Odysseus cherche une bulle de verre derrière laquelle on voit les étoiles. Celle-ci ne bouge pas, ne scintille pas. Odysseus presse ses paumes balafrées contre le verre froid.
T'implore, Pallas Athénée, déesse illustre aux yeux clairs, très sage, au cœur indomptable, vierge vénérable, entends ma prière. Protectrice des villes, vigoureuse, que le prévoyant Zeus enfanta lui-même de sa tête auguste, couverte d'armes guerrières d'or et resplendissantes, et que tous les immortels contemplèrent avec admiration. Entends ma prière. Tu as jailli impétueusement de la tête immortelle, brandissant ta lance aiguë, et le grand Olympos fut ébranlé sous le bond de la déesse aux yeux clairs, et autour, la terre retentit horriblement, et la mer fut ébranlée, bouleversant ses eaux pourprées. Entends ma prière. Fille du porteur de l'Égide, Tritogénie, sublime Pallas dont la vue nous réjouit, toi, la sagesse personnifiée dont les louanges resteront dans la mémoire des siècles. Je te salue, fille de Zeus tempétueux. Entends ma prière.
Odysseus ouvre les yeux. Seul son propre reflet et les étoiles fixes lui retournent son regard. Troisième journée de voyage interplanétaire. Aux yeux d'un observateur éloigné, disons par exemple une personne équipée d'un puissant télescope optique et basée dans l'un des anneaux orbitaux de la Terre, la reine Mab aurait l'aspect d'une barre irrégulière composée de sphères, d'ovales, de citernes, de solides oblongs peints de couleurs vives, de batteries de tuyères et d'une multitude d'hexagones en buki carbone noir, le tout enveloppé de poutrelles et entourant les modules de vie cylindriques et laissant sur son sillage un chapelet d'éclairs atomiques de plus en plus brillants. Manmuth va à l'infirmerie pour rendre visite à Hockenberry. L'humain est en voie de guérison grâce notamment au processus de Gursky qui imprègne sa chambre d'une odeur d'orage. Manmuth, qui accueillit des fleurs dans la gigantesque serre du spationef, d'après ses banques de mémoire, ce genre d'initiative était encore approuvé lors du 21e siècle pré-Rubicon, époque d'origine d'Hockenberry, ou à tout le moins de son ADN, le scoliaste éclate de rire en les découvrant et déclare que du plus loin qu'il s'en souvienne, c'est la première fois qu'on lui offre des fleurs. Mais il s'empresse d'ajouter que le souvenir qu'il a de sa vie sur Terre, de sa vie réelle durant laquelle il était universitaire et non scoliaste, est des plus fragmentaires.
« Heureusement que vous vous êtes têtu à bord de la reine Mab, »
dit Manmuth.
« Nulle part ailleurs vous n'auriez trouvé un médecin suffisamment expert pour vous diagnostiquer et vous sauver la vie. »
« Un médecin mort avec doublé d'un chirurgien à la finesse arachnéenne, » dit Hockenberry. « Quand j'ai rencontré Rétrograde Sinopesen, jamais je n'aurais imaginé qu'il me sauverait la mise 24 heures plus tard. La vie est une drôle de chose. » Manmuth ne voit rien à ajouter à cela. Au bout d'une minute, il demande «
Je sais que vous avez fait un rapport à Stygche, mais cela vous ennuierait-il de me raconter vos mésaventures ?
Pas le moins du monde.
Vous dites que c'est Hélène qui vous a poignardé?
Oui.
Et ce, dans le seul but d'empêcher son époux, Ménélas, de découvrir qu'elle l'avait trahi après que vous l'aviez téléporté dans le campement achéen?
Je le crois.
Manmuth n'est pas un expert en matière d'expression humaine, mais la tristesse ressentie par Oakenberry ne laisse aucune place au doute.
Mais, d'après ce que vous aviez dit à Astikche, Hélène et vous étiez intimes. Vous aviez été amants.
Oui.
Veuillez excuser mon ignorance dans ce domaine, Dr. Oakenberry. Mais il me semble qu'Hélène de Troyes est une femme très vicieuse.
Oakenberry hausse les épaules et se fend d'un triste sourire.
Elle est le produit de son époque, Manmuth. Le fruit d'une existence impitoyable et d'une mentalité qui me dépasse. Lorsque j'enseignais l'Iliade à mes étudiants, je prenais soin de leur expliquer que toute tentative de notre part pour humaniser l'épopée homérique, pour la rendre acceptable aux yeux de notre sensibilité humaniste, était forcément vouée à l'échec. Ces personnages, ces personnes, bien que complètement humaines, datent des débuts de notre ère prétendument civilisée et sont bien antérieures à l'émergence de nos valeurs humanistes. De ce point de vue, les actions et les motivations d'Hélène nous sont aussi incompréhensibles que, disons, l'absence quasi totale de pitié que manifeste Achille et l'inépuisable ruse dont fait preuve Odysseus.
Manmuth opine.
Savez-vous qu'Odysseus est à notre bord? Et qu'il est venu vous voir?
Non, je ne l'ai pas vu. Mais l'intégrateur Primastikche m'a informé de sa présence. En fait, j'ai peur qu'il essaye de me tuer.
De vous tuer?
Répète Manmuth, choqué.
Eh bien, rappelez-vous que vous avez utilisé mes services pour le kidnapper.
C'est moi qui l'ai convaincu que vous aviez reçu un message de Pénélope, tout ce baratin sur l'olivier dans lequel il a sculpté son lit conjugal à Ithaque. Et quand je l'ai amené près du frelon, paf! Mais Pahou l'a estourbie et l'a chargé à bord. À la place d'Odysseus, j'éprouverai une certaine rancune à l'égard du dénommé Thomas Oakenberry.
Estourbir,
songe Manmuth. Il adorait apprendre des mots nouveaux. Il ouvre son lexique, découvre celui-ci, analyse son sens et son étymologie, puis le mémorise.
« Je regrette de vous avoir placé dans cette position délicate »,
déclare-t-il. Il envisage de préciser au scoliaste qu'Orphu lui avait transmis un ordre prioritaire des intégrateurs, embarquer Odysseus avant que le trou ne soit refermé, mais conclut qu'il serait mal avisé d'invoquer une telle excuse. Thomas Oakenberry, PhD, est né dans un siècle où plus personne ne se défaussait ainsi de ses responsabilités.
« Je parlerai à Odysseus. »
Oakenberry fait non de la tête et se fend d'un nouveau sourire.
« Je lui parlerai moi-même, tôt ou tard. En attendant, Astikche a posté un Roquevec pour veiller sur moi. »
« Je me demandais ce qu'un Moravec de la ceinture fichait dans ce couloir. »
« Dans le pire des cas, » dit Oakenberry en palpant le médaillon visible dans l'échancrure de son pyjama. « Je n'aurai qu'à me técu ailleurs. »«
Ah bon ?»
fait Manmuth.
« Et où iriez-vous ? Olympos est une zone de guerre. Ilium est peut-être déjà rasé. »
Le sourire d'Oakenberry s'efface.
« Ouais, ça pose un sérieux problème. Je pourrais toujours aller à la recherche de mon ami Nightenhalser que j'ai laissé quelque part dans l'Indiana de l'an 1000 avant Jésus-Christ. »«
Dans l'Indiana ? Sur quelle terre ?»
Oakenberry se frotte le torse au point précis où rétrograde Sinopesen lui a extrait le cœur 72 heures plus tôt.
« Sur quelle terre ?» répète le scoliaste. « Voilà qui sonne étrangement. Reconnaissez-le. »
« Oui, mais je crois que nous allons devoir nous habituer à ce genre de gymnastique mentale. Votre ami Nightenhalser se trouvait sur la terre que vous venez de quitter par Tekku, appelons-la la terre d'Ilium. Notre vaisseau se dirige vers une terre où 4000 ans se sont écoulés depuis l'époque où vous avez vécu
et où je suis mort.
Ne vous inquiétez pas, je me suis familiarisé avec le concept. Il a cessé de me troubler. Enfin, presque.
Je m'étonne que vous ayez réussi à visualiser la salle des machines de la reine Mab après avoir été poignardé.
Reprend Manmuth.
Comme vous étiez inconscient à votre arrivée, vous avez dû activer le médaillon TQ juste avant de perdre connaissance.
Le scoliaste secoue la tête.
« Je ne me rappelle ni avoir tourné le médaillon, ni avoir visualisé quoi que ce soit. »«
Quelle est la dernière chose dont vous vous rappelez, Dr. Oakenberry ?»«
Une femme qui se tenait devant moi, qui me regardait d'un air horrifié. Une femme de haute taille, au teint pâle et aux cheveux foncés. »«
Hélène ?»
Oakenberry fait non de la tête.
« Elle avait déjà disparu dans l'escalier. Cette femme avait surgi du néant. »«
C'était une Troyenne ?
Non, sa tenue était insolite.
Une tunique et une jupe comme en portaient les femmes à mon époque. Rien à voir avec ce que j'ai pu observer à Ilium ou à Olympos. Sauf que ça ne ressemblait pas non plus au style de mon époque.
Il s'agissait peut-être d'une hallucination.
Manmuth se garde bien de formuler l'évidence. Poignardé en plein cœur, Hawkenberry souffrait d'une hémorragie qui empêchait son cerveau d'être irrigué normalement.
Peut-être. Mais je ne le crois pas.
En outre, j'ai éprouvé une impression des plus étranges lorsque nos regards se sont croisés.
Oui ?
Je ne sais comment la décrire, dit Hawkenberry. La certitude que nous étions destinés à nous revoir quelque part ailleurs. Sûrement pas à trois.
Manmuth rumine cette déclaration et tous deux, le Moravec et l'humain, savourent un silence plutôt confortable. Le fracas des pistons, une pulsation qui fait vibrer les œuvres vives du spationnef toutes les 30 secondes, accompagnée de soupirs et de sifflements à la limite de l'audible, est devenu un simple bruit de fond, aussi familier que le bourdonnement de la ventilation.
« Manmuth, dit Hawkenberry en se palpant le torse une nouvelle fois, « savez-vous pourquoi je ne souhaitais pas vous accompagner pour ce voyage à destination de la Terre ?»
Manmuth fait non de la tête. Il sait qu'Hawkenberry peut voir son reflet sur la bande de plastique noire qui sert d'organe visuel au Moravec et qui court tout autour de son crâne en alliage métallique rouge.
C'est parce que j'en savais assez sur ce périple et sur la reine Mab pour déduire l'objectif réel de votre mission.
Les intégrateurs primes vous ont exposé celui-ci, n'est-ce pas ?
Sourire d'Hawkenberry.
Non. Oh, ils m'ont exposé des objectifs qui sont bien réels, mais ce ne sont pas les vrais.
Si vous souhaitiez vous rendre sur Terre, vous n'aviez pas besoin de construire cette locomotive volante. Vous disposiez déjà de 65 vaisseaux de combat en orbite martienne ou en transit entre Mars et la ceinture des astéroïdes. 65 ?
Manmuth savait que des vaisseaux Moravec croisaient dans l'espace, du frelon ultra-léger au cargo capable de transporter de lourds chargements depuis l'espace jovien, mais il ignorait qu'ils étaient aussi nombreux.
D'où tirez-vous ce chiffre, Dr. Hawkenberry ?
Du centurion en chef Mepahu, qui me l'a communiqué alors que nous nous baladions entre Mars et la Terre d'Ilium. Je m'intéressais à la propulsion des spationnefs, et il ne pouvait guère me renseigner sur ce point. C'est un Moravec de combat qui n'a que de maigres connaissances en ingénierie.
Mais j'ai quand même eu l'impression qu'ils étaient équipés de fusiopropulseurs ou de propulsion ionique, enfin, quelque chose de plus sophistiqué que des bombes atomiques en conserve en tout cas.
Oui.
Manmuth n'est guère versé en astronautique, lui non plus. Le seul vaisseau spatial qu'il ait connu est celui qui les a amenés dans l'espace martien, Orphu et lui, un assemblage hétéroclite de voiles solaires et de propulseurs jetables, catapultés vers le système intérieur par le trébuchet construit par les Moravec à proximité de Jupiter et capable de développer une puissance de 2 billions de watts. Mais même un modeste sous-marinier d'Europe comme lui sait que la reine Mab est un bâtiment primitif et bien trop gros par rapport à ses objectifs affichés. Il croit savoir où Hawkenberry veut en venir et il n'est pas sûr que ça va lui plaire.
« Une explosion atomique toutes les 30 secondes, » dit l'humain à voix basse, « et un vaisseau grand comme l'Empire State Building, comme l'ont souligné Orphu et les intégrateurs. Et la Mab n'est même pas équipée des boucliers furtifs qui protègent le moindre frelon. Vous obtenez donc un gigantesque objet avec un... comment appelle-t-on cela déjà ? Un albédo éblouissant qui se déplace au moyen d'explosions atomiques qui seront visibles en plein jour dans le ciel terrien au moment de votre arrivée. Bon sang, peut-être qu'elles sont déjà visibles à l'œil nu pour ce que j'en sais.
Ce qui vous amène à conclure que...
Manmuth transmet depuis le début cette conversation à Orphu, mais son ami ionien ne s'est pas manifesté pour l'instant.
Ce qui m'amène à croire que le véritable objectif de cette mission est d'être visible de la façon la plus criante qui soit. D'apparaître le plus menaçant possible afin de provoquer une réaction de la part des puissances terriennes. Celles-là même qui, à vous en croire, ont tripatouillé la trame quantique de la réalité. Ce que vous voulez, c'est attirer leur feu.
Ah bon ?
Fait Manmuth. Mais il sait que le docteur Thomas Hawkenberry a raison. Et que lui-même subodorait une telle hypothèse sans toutefois oser la formuler consciemment.
Oui, reprend Hawkenberry. À mon avis, ce vaisseau est truffé de capteurs de toutes sortes, afin que lorsque les puissances inconnues tapis sur Terre ou en orbite terrestre, ou ailleurs, peu importe, pulvériseront la reine Mab, toutes les spécifications de leur armement soient transmises vers Mars, vers la ceinture, vers l'espace jovien, que sais-je encore.
Ce spationnef est une nouvelle version du cheval de Troie que les Grecs n'ont pas encore eu l'idée de construire sur la terre d'Ilium. Et qu'ils ne construiront peut-être jamais vu que j'ai fait dérailler le cours de la guerre et qu'Odysseus est emprisonné sur ce vaisseau. Un cheval de Troie que l'ennemi va s'empresser de faire sauter. Et vous le savez, de faire sauter avec nous tous à bord.
Orphée, est-ce qu'il a raison ?
Et met Madmuth sur le faisceau cohérent.
Oui, mon ami, mais pas sur toute la ligne, lui répond l'Ionien.
Pas avec nous tous à bord, docteur Oakenberry,
dit Madmuth à haute voix.
Vous avez toujours votre médaillon técu. Vous pouvez partir quand vous voulez.
Le scoliaste cesse de se frotter le torse. La cicatrice, quoique à moitié effacée par la glu moléculaire, est livide, mais encore visible, pour poser une main sur le médaillon pendant à son cou.
C'est vrai, dit-il. Je peux partir quand je veux.